RCF.
On dit que devenir soi-même, c'est le travail de toute une vie. Apprendre à dire « je », naître à sa propre singularité, vivre, aimer, travailler, un parmi d'autres, c'est la vocation de chaque être humain. Et pourtant, sur ce chemin d'humanisation, nous rencontrons bien des obstacles. Pour nous aider à grandir et devenir pleinement nous-mêmes, il se peut que nous ayons besoin d'une présence écoutante, d'un lieu où l'on puisse se dire « sans détour ». Le cabinet du psy est l'un de ces endroits où l'on peut, entre silence et parole, tenter d'y voir un peu plus clair et apprendre à se connaître. Pour parler de cette rencontre si déterminante avec soi-même, je reçois cette semaine Cécile Sale, psychanalyste, auteur du livre « Vous êtes sale et je peux tout vous dire » paru aux éditions du Félin. Cécile Sale, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été longtemps psychanalyste et dans votre livre, vous racontez d'ailleurs votre longue expérience d'écoutante.
Oui.
Écouter, c'était votre tâche essentielle ?
Le plus important vis-à-vis d'autrui, c'est de l'entendre, quel que soit cet autrui. Et bien sûr, dans la démarche analytique, l'accueil de l'autre, l'écoute de l'autre est fondamental. Ça n'est pas le tout, mais c'est vraiment fondamental. Il faut même écouter les silences, se mettre à l'écoute de l'autre, c'est dans une position d'ouverture à l'autre. Non pas où on n'existe pas soi-même, en tant qu'analyste, bien évidemment, mais où cette personne que l'on est est comme effacé ou en deuxième plan, et que ce qui est le plus important, c'est l'autre qui parle et qui s'exprime, et l'écho que nous en avons à la fois dans, j'allais dire, dans nos oreilles, mais dans ce, on n'écoute pas qu'avec nos oreilles, ce qu'on ressent dans notre corps, dans notre émotion, dans notre sensibilité, ce qu'on voit de l'autre aussi quand il s'exprime. C'est une personne tout entière.
Être écouté, c'est fondamental. Le sentiment de ne pas être écouté, de ne pas être entendu, empêche l'être humain de vivre ?
Ah, je crois. Je crois, mais quelquefois, ce qu'il y a de pire encore, c'est qu'il ne le sait pas. C'est-à-dire que les cas les plus flagrants, me semble-t-il, c'est ceux où l'individu s'est construit en fonction de son milieu environnant, de ses parents, de l'amour qu'il demande aux uns et aux autres, de l'amour qu'il reçoit, souvent bien sûr très enfant, et qu'il correspond à l'image que ses parents ont voulu qu'il soit. Je dis ses parents, ça a l'air accusateur. Disons que l'environnement, quelquefois, ça peut être l'influence d'un frère, d'une sœur, d'une tante, Dieu sait qui, mais qui lui a donné de lui ou d'elle une image à laquelle il se conforme, qu'il croit être, mais qu'il n'est pas.
C'est-à-dire qui n'est pas lui, en fait.
Qui n'est pas lui, en fait. Et alors, souvent, c'est une douleur très grande, cet écartèlement, si je puis dire, mais dont il ne sait pas qu'elle se situe là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus souvent me rencontrer, les cas les plus flagrants, c'est des gens qui souffrent, mais ils ne savent pas nommer leur douleur parce qu'ils ne savent pas où elle se situe. Et c'est peu à peu qu'ils découvrent cet écart qu'il y a entre ce qu'ils sont devenus et ce qu'ils sont dans le fond, quels sont leurs désirs profonds, la ligne de vie qui aurait été la leur.
Vous parlez de désir, le métier de psychanalyste, c'est d'arriver à faire entendre le désir chez quelqu'un, son désir profond ?
Son désir profond, son désir propre, bien sûr qu'il n'atteint jamais, parce que comme on sait, le désir, c'est quelque chose après lequel on court, mais quelque chose qui soit en relation avec son être profond. Que cette personne puisse se poser comme un être qui est bien d'aplomb sur ses jambes et qui sait avancer dans la vie, avec les écueils de la vie bien évidemment, mais où il n'y a pas cet écartèlement, ce balancement où il est tant qu'il n'est, que l'être n'est pas lui-même. Et ça, c'est une immense douleur de ne pas être soi.
Mais comment expliquer que nous ayons tant de mal à être nous-mêmes, à naître à l'identité que nous sommes profondément.
Profondément. Moi, je pense que ce sont toujours des histoires d'amour, c'est-à-dire des histoires d'influence, en fait. Regardez même dans n'importe quel couple la difficulté qu'on a, alors qu'au départ, on s'aime. Enfin, si on bâtit un couple, c'est qu'on s'aime, c'est qu'on a une grande attirance, à admettre que l'autre ait d'autres façons de raisonner, une autre culture quotidienne, etc. Nous sommes faits, dès le départ, de tas d'influences dont j'allais dire qu'il faut presque toutes les repasser une à une en soi pour se rendre compte de ce qui est à soi, de ce qui est acquis, de ce qui est dû à un modèle qui peut être tout à fait extérieur à la famille d'ailleurs, qui peut être l'influence d'un professeur, de quelqu'un qui est à la mode, quelqu'un à qui on veut se conformer, mais en fait qui n'est pas soi.
Et qui nous aurait parasité.
Et qui nous aurait parasité, c'est ça. Qui serait comme, vous savez, quand on parle du faux soi, c'est ça. Et vous le sentez chez certaines personnes, vous le sentez quelquefois dans la voix, qui n'est pas une voix qui appartient à la personne, quelquefois on le sent, où on sent des gens dont on se dit, tiens, ils sont dans l'image, vous savez, on se dit. C'est souvent des gens qui ne sont pas profondément eux-mêmes, mais c'est très pénible pour eux.
Et vous le ressentez, vous, en tant que psychanalyste, quand vous entendez la parole de quelqu'un, cette souffrance ?
On la sent, on la voit, parce que même s'il ne sait pas d'où elle vient, elle s'exprime, c'est quand même un mystère, si vous voulez. C'est comme une question posée à un détective. Il y a quelque chose, il y a un meurtre, effectivement il y a un meurtre. Il y a le meurtre de l'individu qui était dans le fond et qui n'a pas pu s'épanouir et vivre. Et alors petit à petit, on arrive ensemble avec des paroles qui échappent à la personne, avec ce renvoi qu'on peut lui faire de ce qu'elle a dit sans le vouloir, de rêves qu'elle a eus, de lapsus, de comportements qui l'étonnent, petit à petit, et puis quelquefois aussi des souffrances physiques. Enfin, il y a très souvent une influence sur le corps qui se fait sentir dans ces cas-là. Et petit à petit, on arrive à se défaire d'oripeaux qui ne sont pas indispensables, qui sont des choses qui nous ont été communiquées, données. On s'est vêtu de vêtements qui n'étaient pas à soi.
Repère RCF.
Cécile Sale, vous êtes psychanalyste. Votre livre s'intitule « Vous êtes sale et je peux tout vous dire ». Alors, je crois que c'est une parole un jour.
Tout à fait.
Qu'un analysant, un patient vous a dite.
Oui, il y en a plusieurs qui ont relevé le... Parce que dans les rêves et les associations d'idées, etc., on parle souvent par le son, le nom des choses, ce que ça évoque, etc. Et il y en a vraiment plusieurs qui m'ont dit, en tout cas, avec vous, c'est pratique, on peut parler de choses sales. Ou bien il y en a un qui m'a dit, de toute façon, vous êtes sale, c'était plutôt une injure qu'il me lançait, qui n'était pas destinée à moi personnellement. Ce qui est intéressant, c'est de décrypter à qui était adressée l'injure. Mais le jeu de mots était très facile avec mon nom, et je trouvais que c'était bien, parce que ça permettait, ça autorisait toutes les saletés du monde.
La psychanalyse, c'est assez long. Hein. C'est généralement, on va voir plusieurs fois par semaine un analyste. Ça. Pourquoi est-ce aussi long ?
C'est aussi long parce que je ne crois pas qu'on puisse se modifier sur le plan psychique sans un travail intérieur qui est long. Ce qui ne veut pas dire que, au cours de ces années, il ne se passe rien. C'est un peu ça qui est difficile à faire comprendre. C'est-à-dire qu'on se dit, une psychanalyse, ça dure 5-7 ans. Et on se dit, c'est 5-7 ans dans sa vie de fichu, en quelque sorte. On fait une croix et on repart à 7 ans ou 5 ans après. C'est absolument pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que les modifications sont très lentes. Et entre le moment où on a brutalement une fulgurance, comme par exemple un patient qui me disait « Mon père, c'est moi, et moi, c'est mon père, mais ça peut pas continuer comme ça », entre le moment où il peut dire cette phrase déjà réalisée et le moment où il peut opérer la séparation psychique avec son père, une personnalité très forte évidemment, il se passe des années. Il se passe des années pour que l'être puisse se retrouver lui-même, poser ses propres actes, petit à petit. Mais le changement est quand même se fait au cours de ces 7 ans ou de ces 5 années. Et puis ça peut être quelquefois moins. C'est-à-dire que les choses se modifient. C'est une sorte de modification lente, quelquefois insidieuse, quelquefois pénible parce qu'il y a des temps morts, enfin, ou qu'on croit mort, parce qu'en général, après des périodes un peu désertiques, c'est qu'on tournait autour d'un point très douloureux et qu'il jaillit tout d'un coup. Et donc là, on le retravaille. Donc c'est fait de, Plein de choses se passent durant ces années.
Mais dans une époque où on a envie d'aller vite, vous êtes à contre-courant, vous, les psychanalystes, quand même.
Complètement à contre-courant. Complètement à contre-courant. Quelquefois, je m'interroge en me disant, est-ce que le monde vers lequel on va aura perdu toute conscience du temps, n'aura plus besoin du temps? Je ne sais pas. Moi, je suis assez sceptique parce que je remarque que toutes les thérapies qui ont essayé d'aller beaucoup plus vers la rapidité, j'allais dire que le résultat n'est pas probant non plus. Je crois que chacun, et je ne pense pas non plus que la psychanalyse soit la chose à recommander à tout le monde, ni que tout le monde doive passer par là. Je pense que ça correspond à certaines formes d'esprit, sans doute, certaines recherches. C'est une recherche très globale, qui nous touche, qui nous concerne dans nos sentiments, nos idées. Non. Mais de l'être lui-même, c'est-à-dire, c'est pas pour qu'il devienne une copie du psychanalyste, surtout pas.
Mais tout à l'heure, vous avez évoqué ce cas du jeune homme qui devait se différencier du père. Hein. Et à travers votre livre, on sent ça, c'est que tout le chemin de l'analyse, c'est d'arriver à vivre psychiquement séparé, c'est-à-dire
absolument.
être un être entier.
À être un être entier qui tient debout, et à partir de ce moment-là, j'allais dire qu'il y a comme un oubli de soi-même d'ailleurs. On dit que la psychanalyse, on le reproche beaucoup de faire des êtres narcissiques. C'est vrai qu'au début d'une psychanalyse, on est très tourné vers soi, il y a une espèce d'intériorité, de regard sur soi qui est incessant, qui est d'ailleurs épuisant, qu'on n'aime pas forcément, mais on y passe, on est dedans. Et quand on a débouché vers ce sentiment un peu de libération du fait d'être en accord avec son être le plus profond, je veux dire, on est beaucoup moins préoccupé par soi. C'est en ce sens-là que je trouve que, curieusement et paradoxalement, l'analyse ouvre à l'altérité. Parce qu'on n'est plus encombré de son moi. On est en ouverture à l'autre. On entend beaucoup mieux l'autre.
Vous expliquez que dans le processus analytique, il y a en fait un peu comme une scène hein, sur laquelle se rejouent des épisodes de l'histoire de la personne qui vient vous voir.
Tout à fait.
L'idée, c'est de parler, de redire ce qui s'est passé. En quoi ça aide à aller mieux ?
Ça aide à se délivrer. Ça aide à... D'abord, ça aide à pouvoir penser ce qui s'est passé. Parce que, par exemple, il y a des gens qui arrivent, je pense à une patiente qui me disait, moi j'ai eu une enfance absolument merveilleuse. Du jour, on peut se méfier quand quelqu'un vous dit ça. Non pas que je pense que l'enfance soit... qu'elle ait menti, ni qu'elle ait eu des malheurs atroces dans cette enfance. Mais au cours de cette enfance, elle avait noué des relations avec sa mère d'une intimité extrême. C'est-à-dire qu'elle ne passait pas de jour sans lui téléphoner plusieurs fois, qu'elle était complètement sous sa coupe sans se rendre compte. Elle-même me disait « ma mère, c'est moi », de même que l'autre me disait « mon père, c'est moi ». Et alors, c'est le travail de remémoration, tout ce qui revient, les rêves, tout ce qui sort sur le divan. Cette personne-là était étendue. Donc, ce qui la faisait pleurer sans qu'elle sache pourquoi, mais tout ce qui sortait aussi de son inconscient, qui lui a permis de mettre le doigt sur, par exemple, sur ce point très crucial chez elle, l'éloignement de la mère, la perte de la mère possible. Donc, il ne fallait jamais s'en séparer. Psychiquement, elle était liée. Et l'opération, c'était d'arriver à ce qu'elle puisse vivre toute seule.
Donc la délier.
C'est pas là, mais qu'elle se dénoue.
Oui, parce que on pourrait croire que c'est vous qui faites le travail, analyste.
Non,
mais quand on vient vous voir, c'est la personne qui vit elle-même cette transformation.
C'est ça. Alors simplement, ce que nous pouvons servir de surface identificatoire, c'est-à-dire que nous pouvons être la mère, tout à fait l'image pour cette jeune femme, j'étais visiblement pendant un temps la mère, donc elle pouvait être aussi d'une violence extrême, parce que ses relations avec cette mère étaient tellement étouffante qu'il y avait aussi beaucoup de violence entre elles. Donc elle était très accusatrice envers moi, très violente. Quelquefois, on peut être un homme. Moi, bien que femme, je sais que j'ai joué dans le transfert, dans ce lien de confiance.
Le transfert, c'est quoi ?
Moi, j'appelle ça le lien de confiance absolue. Freud l'appelle amour. Moi, j'aime beaucoup le mot de confiance parce que c'est se fier à, vraiment s'abandonner.
Voilà. Et là, on peut projeter justement sur vous.
Et on peut projeter sur nous les images, les meilleures comme les pires.
Et vous dites dans votre livre que il est indispensable de vivre des séparations nécessaires hein, pour être soi-même. Donc se rejouent dans le cabinet du psychanalyste les trop gros rapprochements et puis les haines possibles et puis les séparations.
Et puis les séparations aussi. Par exemple, il y a des séparations aussi qui s'effectuent. Je pense, c'est vrai, des couples qui se sont séparés à la suite d'une analyse. On a beaucoup accusé les psychanalystes, mais c'était des couples mal posés. J'en connais, par exemple, qui ont divorcés et se sont retrouvés au cours de la cure. C'était
donc
il y a eu une première, c'était, j'avais la jeune femme et dans un premier temps elle s'est séparée, elle a divorcé avec son mari au bout de 3-4 ans et elle est restée plus longtemps, elle est revenue parce qu'il y a souvent des allers-retours, elle est revenue et ils se sont retrouvés avec son mari. Mais c'était un autre travail, c'était plus les mêmes. Lui-même avait changé, elle avait changé. C'était deux adultes qui étaient devenus eux-mêmes et qui se retrouvaient.
Oui, comme quoi, il peut y avoir un préjugé défavorable disant que la psychanalyse fait qu'on peut se divorcer.
C'est ça.
Et vous apportez la preuve qu'on peut aussi avancer dans un autre
sens. On peut aussi avancer et modifier une relation de couple. C'est-à-dire, c'est très très souvent, ça m'est arrivé comme expérience, extrêmement souvent, que les couples soient mariés ou pas, de voir la modification à partir du moment où l'un ou l'autre dans le couple prend son autonomie, en quelque sorte, ça crée forcément quelque chose. Ça crée des tensions, ça crée des questions, ça crée des... Mais c'est aussi riche d'autres choses, d'un apport. Donc l'autre se transforme aussi.
Repère, Béatrice Soltner.
Cécile Salle, vous êtes psychanalyste. Est-ce que la démarche psychanalytique d'aller voir un psychanalyste, ça aide à voir autrement ses parents? Parce que vous parliez d'une phase possible de rejet des parents. Hein. Mais est-ce qu'on peut raccommoder après les relations? Est-ce qu'une réconciliation est possible ou pas?
Ce qui est extraordinaire, c'est d'arriver à pouvoir les voir tels qu'ils sont avec leurs failles, leurs faiblesses. Et souvent, les erreurs qu'ils ont pu commettre sans le vouloir envers nous, et d'avoir avec eux des relations adultes. Maintenant, ce n'est pas toujours possible, parce qu'il faut être deux. Il faut que les parents aussi ne cherchent pas toujours la soumission et l'obéissance auprès de leur enfant devenu adulte. Qu'ils acceptent que leur enfant ne soit pas conforme à ce qu'il souhaitait, qu'il n'ait pas pris le chemin qu'il désirait. Donc, ça se fait des deux côtés. Mais c'est vrai qu'on arrive à des dialogues qui peuvent être extraordinaires. Moi, je pense à une jeune femme au milieu de sa vie qui a sa fille qui veut devenir psychanalyste et qui fait un travail très, très suivi. Et les échanges qu'elles peuvent avoir maintenant ont quelque chose d'extraordinaire entre la mère et la fille qui sont deux adultes.
Vous avez dit devenir adulte. Ce serait le but de l'analyse. La psychanalyse, ça aide à devenir pleinement adulte.
Oui, ça, je crois, parce que ça permet de savoir ce qui est possible, ce qui n'est pas possible, de savoir de plus être dans le rêve de toute puissance de l'enfance et d'accepter sa limite et d'accepter ce qu'on peut donner au mieux d'eux et de se dire, voilà, j'ai telle et telle possibilité, je vais les développer au maximum.
Et est-ce qu'on peut parler d'empathie de la part d'un psychanalyste?
Oui, on peut parler d'empathie, on peut même parler aussi d'antipathie, je dirais, parce qu'il peut y avoir de part et d'autre quelque chose qui ne fonctionne pas, qui fonctionne dans la violence. Quand c'est une réelle antipathie, je dirais, et qu'elle est réciproque, ben je pense qu'on se sépare assez vite. Sinon, il peut y avoir, à partir de transferts négatifs, donc de quelqu'un qui manifeste une méfiance extrême, qui est en... offert tellement violente qu'au contraire, on peut travailler ça. Et puis, il y a des personnes, je pense que ça aussi, je le cite dans mon livre, et c'est important, des gens dont on a l'impression que ils se disent surtout « ne m'aimez pas, ne m'aimez pas ». Ils font tout ce qu'ils peuvent, soit pour vous endormir, et ça, alors un patient qui vous endort, c'est
grave.
Ça revient, c'est grave, c'est un signe. On se dit « ouh là là, attention, qu'est-ce que cette personne exprime par cette volonté délibérée à chaque séance, enfin délibérée c'est stupide, elle ne le sait pas.
De se rendre désagréable ?
Non, d'endormir. C'est-à-dire d'avoir une espèce de propos qui fait que vous ne savez pas pourquoi, vous vous dites cette fois-ci je ne me laisserai pas piéger. Mais c'est pas vrai, elle vous endort.
Et alors qu'est-ce qu'il y a derrière ?
Et derrière cette personne, moi j'ai senti qu'il y avait un vœu de mort. Et que c'était en fait anéantir l'autre. Et je veux dire, c'est apparu à la suite. C'est que sa mère l'avait eu en étant une jeune étudiante. Elle ne s'était pas mariée et elle ne voulait pas de cet enfant. Et elle tapait son ventre en se disant « je veux que cet enfant sorte de moi ». Et elle n'avait pas osé aller jusqu'à l'avortement, mais il y avait et elle avait des relations extrêmement mauvaises avec sa fille.
Et une fille ressent ça.
Elle le ressentait, elle le vivait sans savoir que c'était ça qu'elle ressentait et qu'elle renvoyait aux autres. Qu'elle renvoyait, elle répétait en quelque sorte le vœu de mort que sa mère avait eu sur elle. Elle ne se rendait pas compte. Et elle est devenue vivante au bout d'un temps, mais il a fallu beaucoup de temps pour qu'elle devienne vivante.
Et ça veut dire quoi, devenir vivante ?
Devenir vivante, c'est laisser exprimer un désir, une joie, une douleur, être touchée par les choses.
Et c'est pour ça que ça prend du temps dans la psychanalyse ?
Ça prend du temps. Parce que je crois que le temps et l'expérience quotidienne joue son rôle, c'est-à-dire qu'il faut au fil du temps aussi expérimenter cette personne que nous devenons peu à peu. Il faut pouvoir arriver à exprimer vis-à-vis d'autrui ce que nous sentons que nous avons à exprimer alors que jusque-là nous étions autres.
C'est-à-dire le changement s'inscrit dans le temps
s'inscrit parce que dans la réalité. Si ça s'inscrit pas dans la réalité, ça n'a aucun sens. Bon, quelqu'un qui est asservi, par exemple, qui a une peur terrible de son père, qui n'ose jamais lui parler, qui ne lui a jamais parlé parce que c'est un être très impressionnant, qui a réussi dans la vie et qui est très impérieux vis-à-vis de sa fille, qui ne s'intéresse pas à sa fille parce qu'il ne s'intéresse pas beaucoup à ses enfants. Mais arriver à aller voir son père et à lui dire ce qu'on a à lui dire, à la fois sur l'admiration qu'on a pour lui, mais sur l'espèce de crainte terrible dont on est saisi, et arriver à pouvoir exister en face de lui, petit à petit, ne serait-ce que de prendre la parole à table, ne serait-ce que de s'habiller d'une façon qu'il n'aime pas, de se couper les cheveux, sont des choses petites, mais je pourrais vous citer des choses infiniment plus dramatiques.
Et qui prennent du temps, c'est pour ça que vous...
Et ça prend du temps, quand je pense à un inceste, à ce qu'une fille puisse aller dire à son père, est-ce que tu te rappelles les jeux que tu faisais avec moi enfant ? Ou est-ce que c'est une femme de 40 ans, arriver à pouvoir dire ça à son père, c'est pas facile, sans le tuer.
Sans le tuer, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire sans avoir sur lui un vœu de mort, ce qui était là jusqu'à présent, qui était là jusqu'à ce qu'elle puisse lui parler.
Vous êtes témoin, Cécile Salle, que ces chemins de transformation peuvent durer des années, mais qu'on en ressort... soi-même, justement ?
C'est-à-dire qu'on commence à être soi-même. Moi, je crois qu'on est soi-même tout au long de sa vie. Je crois qu'il n'y a qu'au moment de la mort qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Mais je crois que c'est un chemin qu'on n'arrête pas. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la psychanalyse, c'est peut-être parce que c'est une méthode, hein, quelque chose qui vous apprend à vous observer vous-même, mais sans que ça devienne du tout obsessionnel, simplement à savoir où vous êtes, à vous situer vous-même parmi les autres. Dans le social, dans le familial, dans toutes les dimensions de l'être, dans le religieux, dans la croyance, dans la politique, enfin de se situer dans le monde. Et après ça, on ne cesse d'évoluer parce que la vie ne cesse de nous faire évoluer. Mais on évolue, j'allais dire, sur des bases qui sont solides, alors qu'avant, on se balançait, on était comme un cheval à bascule, un peu, vous voyez.
Que vous ont appris les patients que vous avez rencontrés ? Je rappelle que vous avez beaucoup pratiqué, hein, vous avez encore quelques patients.
Oui.
Mais que vous ont-ils appris de fondamental ?
L'amour de l'autre. Et aussi l'admiration. Parce que voir la manière dont les gens se battent et dont ils supportent leur souffrance.
Une bagarre pour la vie.
Une bagarre pour la vie.
Cécile Salle, merci. Je rappelle le titre de votre livre paru aux éditions du Félin. Ça s'appelle « Vous êtes sale, je peux tout vous dire ». Je le recommande parce que c'est vraiment un livre de psychanalyse sans aucun jargon. Merci à vous.
Merci.
Cette émission était mise en onde par Benoît Palandre.